La théorie des idées de Platon, une carte philosophique et symbolique de la réalité. La théorie des idées ou des formes, au cœur de la pensée de Platon, est l'une des contributions les plus audacieuses et influentes de la philosophie occidentale. Bien plus qu'un concept abstrait, elle propose une vision du réel qui transcende les apparences, invitant chacun à repenser sa perception du monde et de soi-même. Cet article explore cette théorie dans toute sa profondeur philosophique, symbolique et pratique. Pour offrir au lecteur ou à l'auditeur une compréhension totale, une clé pour saisir son essence et l'adapter à sa propre existence. Imaginez deux réalités distinctes. D'un côté, le monde sensible, celui que vous touchez, voyez, entendez. Un arbre qui ploie sous le vent, une chaise usée par le temps, une mélodie qui s'évanouit. Ce monde est mouvant, imparfait et éphémère. De l'autre, le monde intelligible, un domaine invisible au sens, peuplé d'entités parfaites, éternelles, immuables, les idées. Pour Platon, chaque objet sensible, une chaise, un cercle tracé dans le sable, n'est qu'une ombre, une copie imparfaite d'une idée correspondante dans ce monde supérieur. L'idée de la chaise-té, l'idée du cercle. Le pivot de cette théorie est simple, mais révolutionnaire. La vraie réalité ne réside pas dans ce que nous percevons, mais dans ses formes idéales. Le bien, la beauté, la justice ne sont pas de vagues notions subjectives. Elles existent en elles-mêmes, indépendamment de nous, comme des archétypes parfaits que notre âme peut contempler par la raison. Ainsi, un acte juste ici-bas n'est juste que parce qu'il participe, même imparfaitement, à l'idée de la justice. Alors, explorons ensemble le sens de l'être. En premier lieu, il y a la dualité ontologique. Platon divise l'être en deux plans. Le sensible est un théâtre d'illusions, un flux chaotique où rien ne dure. L'intelligible, lui, est stable, éternel. Prenons une table. Elle peut être bancale, vernie ou brute, mais aucune table sensible n'incarne pleinement la tablité. Cette essence parfaite existe au-delà dans le domaine des idées, accessible non par les yeux mais par l'esprit. Cette distinction remet en cause notre confiance naïve dans les sens. Ce que nous appelons réel n'est qu'un reflet. En second lieu, nous parlerons de la connaissance véritable. Pour Platon, la connaissance issue des sens, l'opinion ou doxa, est fragile, sujette à l'erreur. Voir une ombre longue au crépuscule et y croire un monstre caché n'est qu'illusion. La vraie science, épistémée, naît de la contemplation des idées par la raison et l'âme. C'est une ascension. De l'observation d'un bel objet à la reconnaissance de la beauté elle-même, universelle et absolue. Cette quête exige un effort, la dialectique, un dialogue intérieur ou avec autrui pour dépasser les contradictions et atteindre la vérité. Le bien, comme soleil, vient éclairer nos vies. Dans la République, Platon compare l'idée du bien au soleil. Comme le soleil éclaire le monde, sensible et permet la vie, le bien illumine le monde intelligible, rendant les autres idées compréhensibles et conférant à tout son sens. C'est la forme suprême, le principe unificateur. Vivre selon le bien, c'est aligner son existence sur cette lumière invisible, mais omniprésente. Utilisons les idées comme miroir de l'âme. Symboliquement, la théorie des idées est une métaphore de notre condition intérieure. Le monde sensible représente notre vie quotidienne encombrée de désirs fugaces, de jugements hâtifs, d'objets qui se brisent. Les idées, elles, sont les aspirations profondes de l'âme. Ces éclairs de perfection que nous entrevoyons dans l'amour, l'art ou encore la justice. Quand vous êtes ému par une peinture ou une mélodie, vous ne réagissez pas seulement à des pigments ou des sons, mais à une ombre de la beauté éternelle qui résonne en vous. L'âme, selon Platon, a contemplé ses idées avant la naissance, dans un état préexistant. Notre vie terrestre est une amnésie, un oubli de cette vision originelle. Apprendre, alors, n'est pas acquérir du neuf, mais se souvenir, anamnésis. Chaque quête de vérité est un retour à la maison, un écho de ce que nous savons déjà au fond de nous. Alors, pourquoi cela compte? Eh bien, il y a en premier lieu une critique de la subjectivité. À une époque où « ma vérité » domine souvent, Platon nous défie. La vérité n'est pas relative. La justice n'est pas ce que vous ou moi décidons qu'elle est. Elle existe en soi. Et notre rôle est de nous en approcher. Cela impose une humilité, reconnaître que nos perceptions sont limitées, mais aussi une ambition, chercher ce qui transcende nos petites vies. Il y a également un appel à la transcendance. La théorie des idées invite à regarder au-delà du matériel. Accumuler des biens, courir après la gloire, ces poursuites ne touchent que des ombres. La vraie richesse est dans la contemplation des formes. Cultiver la sagesse, agir justement, créer le beau. Et il y a bien sûr une éthique de la participation. Chaque acte, chaque objet participe aux idées à sa manière. Un mensonge trahit la vérité, un geste altruiste reflète le bien. Nous sommes des artisans du monde intelligible, sculptant des reflets imparfaits de l'éternel. Je vous propose maintenant un guide pratique pour adapter tout cela à votre vie. Comment faire de cette théorie un levier pour votre existence? Eh bien, là, il y a un chemin concret, pas à pas, pour incarner les idées dans votre quotidien. En premier lieu, je vous invite à questionner les apparences. Prenez un objet banal, votre tasse de café, elle est ébréchée, unique, mais elle n'est pas la tasse thé. Demandez-vous, qu'est-ce qui fait une tasse au-delà de celle-ci? Cet exercice aiguise votre capacité à voir l'universel dans le particulier. Deuxièmement, cherchez l'essence. Face à une émotion ou un choix, disons un débat sur ce qui est juste, ne vous arrêtez pas à vos impressions. Creusez. Qu'est-ce que la justice hors contexte? Écrivez vos pensées. Discutez-les avec quelqu'un. Vous vous rapprochez des idées par ce dialogue. Ensuite, cultivez la beauté. Créez ou contemplez quelque chose de beau. Une poésie, par exemple sur le site voiepoétique.com, un jardin, une mélodie. Ne cherchez pas la perfection technique, mais l'élan vers l'idée de beauté. Ce faisant, vous alignez votre âme sur le monde intelligible. Vivre selon le bien, c'est chaque jour vous questionner. Mes actions reflètent-elles une vérité plus grande? Aider un ami, dire non à une injustice, écouter vraiment, ce sont des participations au bien. Petit à petit, votre vie devient un pont entre les deux mondes. En dernier lieu, acceptez l'effort. La contemplation des idées demande du temps, méditation, lecture, silence. Comme un muscle, votre esprit s'affine. Les distractions du sensible s'estompent et les formes se dessinent tout d'un coup plus clairement. Aujourd'hui, le sensible nous submerge. Écran, consommation, bruit. Nous prenons les « likes » pour de l'amour, les « titres » pour de la valeur. La théorie des idées est un antidote. Elle nous rappelle que ces choses ne sont que des ombres. Les réseaux sociaux ne sont pas l'amitié. Une promotion n'est pas la réussite. Chercher les idées, c'est se libérer de ces leurres pour viser une vie plus pleine, plus remplie. En conclusion, je vous propose de devenir un habitant des deux mondes. La théorie des idées n'est pas une abstraction froide. Elle est une promesse. Elle dit que derrière le chaos du quotidien, il y a un ordre, une beauté, une vérité qui vous attendent. En le comprenant, vous ne voyez plus une chaise comme un simple objet, mais comme un écho d'une perfection invisible. Vous ne jugez plus un acte par ses résultats immédiats, mais par sa participation à quelque chose de plus grand. Vous voilà équipé. Vous savez que le monde sensible n'est qu'un voile, que les idées sont des phares et que votre âme peut naviguer entre les deux. Appliquez cela, questionnez, cherchez, vivez, selon ses formes. Et vous ne serez plus un spectateur des ombres, mais un sculpteur de lumière. Platon vous tend la main. Saisissez-la et marchez vers l'intelligible.